Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, chaque jeudi à 13h15 et 19h15. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Papin-Drastic. Bonjour Madame Papin-Drastic, conservateur du musée de l'Odève. Elle présente pour les auditeurs de Radio FM+, l'exposition qui a lieu en ce moment, ceci jusqu'au 27 mars 2022 au musée de l'Odève. Une exposition tournée autour de l'œuvre de Jean-Francis Aubutin, qui est né en 1866, décédé en 1930, intitulée « Jean-Francis Aubutin, un âge d'or ». Un artiste sensible, coloriste, à l'univers très personnel, au travers d'une centaine d'œuvres. Donc, Madame Papin, pouvez-vous évoquer en premier lieu le parcours biographique du peintre, ce qui pourrait ouvrir la discussion autour des influences qui auront été ressenties par lui, exprimées dans sa peinture, que cela soit au travers de mouvements ou de la part d'un peintre en particulier.
Oui, bonjour. Alors, Jean-Francis Aubutin est né en 1866, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pour le situer par rapport... Si on prend un impressionniste avec lequel il a été mis en parallèle relativement récemment, Claude Monet, c'est-à-dire qu'il est à peu près de 20 ans son cadet. Il est effectivement au carrefour d'un certain nombre d'influences. Il est parisien, issu d'une famille plutôt aisée. Un père architecte à la ville de Paris, ce qui va lui permettre une assez grande liberté d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il fait un parcours relativement classique qui passe par l'école des Beaux-Arts. Il va exposer régulièrement au salon officiel et bénéficier d'un certain nombre de commandes, notamment pour des décors ou des grandes œuvres. Et c'est quelqu'un qui va rester toute sa vie quasiment à Paris. Mais par contre, il va traverser beaucoup la France. Il voyage beaucoup. Et à partir de 1904, il tombera amoureux de la petite ville de Varengeville, en Normandie, où il achètera un terrain et il se fera construire une maison par son frère qui était architecte, à partir de 1907. Et il y a séjourné quasiment tout le temps à partir de ce moment-là, puisqu'il y est aussi enterré.
Alors le parcours de l'exposition met en lumière une double recherche, symboliste et celle du paysagiste. Dans certains tableaux, le peintre invite des personnages imaginaires, muses, sirènes, nymphes, faunes, et vous parlez d'intégration du réel et de l'idéal. Alors ceci, c'est plus un petit peu plus tard, au cours de sa carrière de peintre, en fait, que ces personnages imaginaires surgissent.
Oui, alors effectivement, comme on le disait en introduction, il est au carrefour de multiples influences, et ces influences sont notamment celles du symbolisme. Alors, il a bien sûr des sortes de mentors, même si ce ne sont pas des peintres qui ont été ses maîtres à l'école des Beaux-Arts, mais il admire beaucoup Odillon Redon et Puvis de Chavannes. Mais néanmoins, Aubutin va développer un symbolisme assez personnel. Donc en peuplant ces tableaux de muses, de sirènes ou de nymphes, finalement, quand je dis qu'il il intègre du réel à de l'idéal, effectivement, Aubutin est avant tout un paysagiste. C'est un peintre dans la tradition des peintres sur le motif. Et quand il va venir intégrer des personnages, ce n'est pas pour être dans une translation d'un récit. Il ne va pas vouloir raconter une histoire en intégrant ces personnages, contrairement à une mythologie qui pourrait un thème mythologique. Mais c'est plutôt pour aller encore plus dans une quête de ou dans une quête de la nature où finalement ces figures de nymphes et de muses qui sont des figures assez éthérées qui n'ont pas vraiment de chair en fait puisque ce sont ils s'intéressent pas beaucoup à la physionomie, elles font corps avec la nature et dans le traitement de technique de Haubertin, on voit que finalement il enveloppe dans des mêmes couleurs les figures, la nature, etc. Donc c'est comme si ces figures étaient là pour appuyer un peu plus le côté cette quête un peu absolue d'une nature intacte et pure que fait Haubertin dans toute sa carrière.
Oui, j'ai compris, enfin, je suppose, pendant la présentation, la visite guidée, qu'il était plutôt d'un tempérament mélancolique et qu'il tournait le dos à la civilisation. En plus, en fait, il y a très peu de personnages dans ces tableaux, sauf ces naïades ou ces sirènes ou quelques faunes parfois, qui participent du mouvement. Je vois la fontaine avec la forme du coquillage, la fontaine en forme de coquillage, et le mouvement arrondi de l'épaule, des hanches, des naïades.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est là où je pense que cette exposition est vraiment intéressante parce que elle est, c'est une expérience de visite qui dégage beaucoup de paix. C'est une espèce de paix, de sentiment de paix qui transparaît dans toute cette œuvre et dans une période troublée qui était la sienne et qui est la nôtre aujourd'hui aussi. Il me semble qu'il y a une certaine résonance dans cette vision d'un artiste qui finalement ne représente pas du tout la révolution industrielle qui est en cours à son époque et qui va au contraire, qui en même temps est très ancré dans le monde puisqu'il peint devant le paysage, donc il est vraiment là, devant. Et il va représenter une sorte de ce qu'il a sous les yeux, mais en y appliquant des couleurs extraordinaires, imaginaires, etc. Donc il va vers une sorte d'idée d'une nature idéale.
Peut-être un refuge également, parce que je suis en train de réaliser, il y a eu la Première Guerre mondiale, mais nulle part ça ne transparaît dans son œuvre. Enfin, parmi ce que j'ai vu dans les tableaux, ce sont des tableaux qui dégagent une ambiance un petit peu féerique, quelque chose d'une paix absolue. Alors, ces travaux ont porté dans la réalisation de grands programmes décoratifs dont je vous invite à me parler. Après, on parlera des peintures sur le motif qui sont plus intimistes.
Oui, alors ce sont donc des commandes, parce qu'effectivement, le peintre a mené une double carrière parallèle. Et donc, il a réalisé un certain nombre de commandes, notamment pour la Sorbonne, pour laquelle il a réalisé une fresque destinée à l'amphithéâtre de biologie. Et il a fait cette fresque sur le thème des fonds marins. Autour de 1896, il est notamment à Banyuls et aussi à Roscoff, en Bretagne. Et il va étudier de près toute la faune sous-marine pour la retranscrire dans cette belle fresque. Et puis, il a également une commande pour le Palais Longchamp à Marseille, plusieurs commandes, et encore un peu plus tard, en 1924, pour le Conseil d'État. Et donc, il réalise des grandes commandes. Et puis, il y a une autre version de ces commandes qui sont liées à son exposition au Salon officiel, qui sont des peintures d'un format important et qui ont été ensuite achetées par l'État. C'est le cas, par exemple, des deux œuvres qui sont dans l'exposition et qui appartiennent au Musée d'Orsay et au Musée du Petit Palais de Paris, qui sont des compositions où apparaissent des nymphes, donc des sujets un peu plus symbolistes, mais qui sont rentrés dans les collections de l'État.
Oui. Gare de Lyon, il paraît qu'il y a une œuvre, c'est, il me semble, personne qui a fait, qui m'a fait la visite m'a dit qu'à Gare de Lyon, à Paris aussi, il y avait une œuvre de... De Jean-Francis Aubertin. Donc je reviens vers vous, Madame Papandrastic, cette superbe exposition autour du peintre Jean-Francis Aubertin. Alors vous parlez de portraitiste de la nature et il va explorer différents paysages en fait selon les époques de sa vie et le moment où il habitait, où il découvrait peut-être les régions.
Oui, alors il explore effectivement différentes régions de France, probablement grâce au chemin de fer, qu'il ne représente pas dans ses tableaux, mais voilà. Et donc, dans cette tradition des peintres sur le motif, il a tout un matériel qu'on voit d'ailleurs sur un certain nombre de photographies d'archives, notamment à ce qui paraît, il avait une brouette dans laquelle il mettait son matériel. Et il parcourt les sentiers des douaniers. Et ceci, notamment, alors dans le sud, à partir de 1894, il séjourne très régulièrement, pendant 10 ans, régulièrement à Porquerolles, dont il connaît vraiment les moindres recoins, les moindres calanques. Et puis, juste après, à partir de 1896, il est très régulièrement en Bretagne et en Normandie. Alors la Bretagne, Belle-Île, et en Normandie, surtout à Étretat. Et puis ensuite à Varengeville, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 1904.
Donc en fait, il va faire plus ou moins des séries de peintures autour des côtes méditerranéennes, autour de Porquerolles, autour de Belle-Île en mer, avec des paysages complètement différents, puisque Porquerolles sont des paysages assez paisibles, ce que je qualifierais de paisibles, avec des représentations de pins, de perspectives assez estompées, malgré tout, où le ciel se fond avec la mer. Après, la côte sauvage de Belle-Île en mer, c'est une côte sauvage très, très découpée, avec des rochers... un peu déchiqueté, qui évoque des personnages aussi parfois.
Oui, alors effectivement, enfin, ce qui est quand même surprenant dans la série sur la Bretagne, c'est que finalement, il se confronte à deux univers très différents, parce que dans le sud, il est face à une lumière très forte et à du calcaire, et en Bretagne, il est face à des vents violents, etc., et à des rochers schisteux. Mais cette violence des éléments en Bretagne, c'est pas ça qu'il va représenter. Il représente plutôt une Bretagne des vues, des rochers, etc., et de la mer, plutôt partant très calme. Donc il y a un côté presque méditatif dans ces tableaux, qui est accentué probablement par la technique de la gouache qu'il utilise. Et qui donne un aspect très velouté avec l'utilisation de couleurs très subtiles. Et puis il y a une autre série à laquelle est consacrée une salle entière dans l'exposition, c'est celle sur les Pyrénées, et qui est très très belle, parce que dans cette série-là, il s'exprime vraiment, il y a un même motif qui est un pic, qui s'appelle le pic de Beherlegi, dans le Pays Basque, et autour de ce pic, de cette vue, il va vraiment faire des recherches sur la couleur, la lumière, etc. Très belle série.
Oui, les Pyrénées, oui, on a l'impression d'une série justement de même vue, plus ou moins, sous différentes atmosphères, avec des formats très étirés.
Oui, alors ça dénote notamment son influence de l'art japonais. Qu'il collectionne et qu'il affectionne. Il fait partie de ces artistes, de la deuxième génération des artistes qui s'intéressent à l'art japonais. Et effectivement, dans cette série de Pyrénées, il utilise des formats un peu longs, un peu panoramiques, qui sont très peu habituels à cette période. Et en plus, il appose son monogramme, qui fait penser aussi à sa filiation à l'art japonais.
La Normandie... Également, on retrouve cette influence japonisante. De toute façon, c'était un peu la période qui voulait ça, le japonisme. Il utilise des techniques particulières, j'ai vu sur le dossier de presse, au niveau des formats, tels que vous le disiez, où la prise de vue en plongée, en contre-plongée, des motifs cernés au fusain, qui accentuent cette impression de... qui nous rapproche du Japon, de certaines estampes japonaises.
Oui, oui, absolument. Il a dû être très fasciné par ces estampes japonaises. On voit notamment dans une série sur Étretat, qui est à l'aquarelle, où là, vraiment, il utilise, comme l'art japonais de l'estampe, il y a une grande économie des couleurs, des teintes. Il joue avec le cerne, l'encre noire, etc. Et comme vous le disiez, avec des vues cadrées d'une manière tout à fait spectaculaire. Voilà.
Et la Normandie, je voulais revenir sur la chatoyance des couleurs. Les teintes sont assez pastelles, mais souvent on retrouve cette couleur corail presque qui fuse du tableau, qui...
Oui, alors il utilise des couleurs très, très, qui lui sont vraiment propres, oui. Toute une palette qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, des roses, un peu ce que vous disiez, du corail, associé à des bleus, à des verts, c'est très beau.
Et ce que j'ai remarqué aussi, alors, c'est la multiplicité des techniques. Ça va être il utilise le fusain, il va utiliser beaucoup de gouache sur du papier grisé. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça rajoute de la couleur au tableau. Et ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il allait sur place pour peindre sur le motif avec son papier. Et selon les intempéries, il pliait, il repartait avec sa toile roulée.
Oui, c'est ça. Parce qu'on voit, quand on est dans l'exposition et qu'on se rapproche vraiment des œuvres, j'invite vraiment les visiteurs à se rapprocher parce que c'est là qu'on décèle tous ces détails. On voit au centre souvent des vues de la Bretagne, notamment, des traces de plis.
Oui. Voilà. Et alors, il y a aussi de la peinture... De la peinture à l'huile et aussi des sanguines et certaines ébauches de tableaux qui vont être traitées complètement différemment, en particulier au moment de la période où il peint ces faunes, ces sirènes qui sont intégrées, qui font pratiquement partie, qui émergent de la mer, on dirait qu'elles sont rochers elles-mêmes, enfin on ne sait plus. Et... Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau de cette salle, alors je vais rajouter quand même que chaque salle va présenter des œuvres provenant d'un paysage différent. Les salles qui sont consacrées à la Méditerranée, il y a la Normandie, la Bretagne et le Belle-Île-en-Mer. Et en fait, sur voilà, les toiles qui présentent sont complètement différentes selon qu'elles sont une ébauche. Elles vont être complètement différentes dans le traitement des couleurs ou alors le modèle présenté, le modèle final.
Oui, tout à fait. Il y a notamment dans l'exposition plusieurs tableaux avec leurs études préparatoires. Et vous avez tout à fait raison. Par exemple, une grande toile, la grande toile qui appartient au musée du Petit Palais qui s'appelle Chant sur l'eau. Dans sa version définitive de grand tableau officiel, très différent de l'aquarelle de la gouache pardon, qui prépare l'œuvre, qui elle a des teintes beaucoup plus bleutées, même un bleu presque électrique, alors que le tableau finalement est beaucoup plus atténué, avec plutôt une dominante de vert pour les rochers et non pas de bleu.
Et ce qu'on peut remarquer également, autant il y a des toiles qui sont consacrées à des personnages imaginaires très éthérés, à un moment donné, il y a quand même quelques personnages représentés. Par exemple, je crois que c'est dans les Calanques de Marseille, une Italienne couchée, mais c'est très rare dans sa peinture.
Oui, alors ça, vous faites allusion effectivement à des œuvres du début de sa carrière
Oui.
où il peint sa femme.
Oui.
Sa femme est avec lui et elle lui sert de modèle, soit effectivement dans les Calanques, soit en Bretagne où elle est assise devant la mer. Mais c'est un motif qui ensuite disparaît complètement de sa production,
Oui.
effectivement.
Oui, cette femme assise devant la mer avec ce chemisier orange, c'est fabuleux. Est-ce que vous pouvez nous, pourriez nous dire en quoi ce peintre a éveillé l'envie de réaliser cette exposition?
Alors, j'avoue que je ne connaissais pas très bien ce peintre et je me suis donc intéressée de plus près à lui. Et je trouve que c'est un peintre incroyable
Oui.
au niveau des couleurs qu'il
Oui.
utilise,
Oui.
etc. Et en approfondissant la connaissance de son travail, j'ai trouvé que cette œuvre était d'une grande liberté et ça m'a vraiment énormément plu. Et
Oui.
puis j'y ai fait le rapprochement aussi, justement, de cette vision de la nature que pouvait avoir un artiste dans un contexte particulier,
Oui.
que je trouve très intéressant par rapport à aujourd'hui, au positionnement qui est le nôtre aujourd'hui dans des périodes troublées. Et puis, je trouve que c'est l'occasion pour le public de découvrir, c'est une rétrospective, donc c'est vraiment une occasion unique de voir une rétrospective d'une centaine d'œuvres de ce peintre dans le Sud. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un très bel artiste qui m'a beaucoup touchée.
Personnellement, au fur et à mesure où j'avançais dans l'exposition, où je découvrais les œuvres, je me suis attachée à ce peintre, de par ses représentations de la nature, déjà cet Éden quelque part, et on ressent et la douceur des teintes. On ressent comme une tendresse pour lui. C'est ce que j'ai ressenti. C'est un artiste, vous le disiez, qui conjugue réalisme et spiritualité. On parle aussi du délicat au burtin. Je ne sais pas si
Oui, c'est ça. Alors, spiritualité, peut-être que je le remplacerais plutôt par quelque chose d'un peu mystique.
Oui.
Parce que je ne suis pas convaincue qu'il était croyant, mais en tous les cas, il y a chez lui une idée un peu, effectivement, vraiment idéale, d'un monde idéal.
Une quête.
Une quête.
Oui,
une quête.
très bien.
Et qu'il nous retranscrit avec beaucoup de délicatesse et de finesse.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails pratiques quant à la durée de l'exposition, les jours d'ouverture ?
Oui, alors l'exposition est ouverte jusqu'au 27 mars 2022. Elle est ouverte tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 18h, avec des visites guidées régulières qui sont proposées tous les jours. Voilà, je vous invite à regarder le site internet pour avoir les horaires.
Oui, bien sûr.
On peut également téléphoner au musée. Voilà, c'est que... En espérant que nous avons su transmettre aux auditeurs de Radio FM+, l'envie de venir découvrir la douceur des tons de ces toiles et également la chatoyance des couleurs. Il y a des toiles qui se déclinent en des teintes très, très douces. Il y en a d'autres... D'où la couleur semble jaillir, hein, je pensais à cette fameuse teinte, cet orange rosé. Et l'univers de ce peintre qui exprime l'idée d'une nature essentielle et immémoriale. Je vous donne rendez-vous pour mes prochaines émissions Jardin d'Isis, chaque jeudi à 13h15 et 19h15. Et belle visite au musée de l'Odève. Au revoir.